Alors, soigner sans, avec ou dans la parole, le paradigme de l'étranger. Quand j'ai proposé ce titre, je ne savais pas encore ce que j'allais dire. Mais ça colle assez bien. La consultation médicale avec quelqu'un qui ne parle pas ma langue, c'est une situation que je vais essayer d'examiner avec vous ce matin dans une certaine visée. C'est de donner un coup de projecteur sur la place qui prend la parole dans cette consultation. Et le mot de paradigme, un peu un gros mot proposé dans le titre, ne signifie rien de plus que le caractère de modèle exemplaire. L'étranger exemplaire, tiens donc. Exemplaire pour prendre la mesure de la parole dans la médecine tout entière. Alors, trois temps pour cet exposé, soigner sans, soigner avec et soigner dans la parole. Commençons par affirmer que la technique médicale peut opérer dans une certaine mesure sans la parole. Soigner sans la parole, le médecin sait faire, dans certaines circonstances. Le corps malade parle de lui-même. Pensons aux accidentés en état de choc, aux malades plongés dans le coma, à quelqu'un qui ferait une crise d'asthme ou un accident vasculaire cérébral. Ces situations d'urgence montrent qu'une médecine qui soigne, voire qui sauve des vies, reste possible sans une parole qui porte la demande ou exprime une plainte. Et réciproquement, le médecin peut administrer un antibiotique, opérer un organe malade, réparer une fracture sans parole. Et en dehors de l'urgence, on peut penser aux aphasiques, aux confus, aux déments, aux amnésiques, aux enfants encore infants, c'est-à-dire qui ne parlent pas. Ils sont aussi soignés, parfois assez bien soignés. Alors la question, c'est est-ce que le malade étranger pourrait être une catégorie supplémentaire de gens qu'on peut prendre en charge médicalement sans parole intelligible. Devant un étranger comme devant d'autres taiseux, volontaires ou non, le médecin se sent suffisamment familier du corps pour être à l'aise en présence d'un corps malade. Il s'active dans son propre domaine. Le médecin pourrait dire « Rien de ce qui est du corps ne m'est étranger. » Et peu me chaud d'avoir un interprète. En effet, médecins, nous sommes en face de malades différents un par un, mais auxquels nous imputons une identité plus générale, un genre commun. Et la médecine quitte l'empirisme lorsqu'à partir d'une multiplicité de situations disparates, se dégage un jugement applicable à des cas que l'on regroupe dans une catégorie, à partir de leurs traits communs et non à partir de leurs différences. Et c'est en supposant que le corps malade d'un tamoul réagira à la présence d'une maladie par les mêmes signes que celui d'un Suisse, et que les mêmes remèdes seront efficaces, que je peux entreprendre de soigner l'un et l'autre, atteint d'une pneumonie ou d'une colite néphrétique ou de toute autre chose. Dans la situation habituelle, toutefois, la parole est omniprésente. Parole du malade ou des proches, parole des parents pour les enfants, parole des médecins et autres soignants à l'hôpital, mais dans ce bain langagier, la parole n'est-elle pas accessoire? Ajoutons qu'elle peut aussi induire en erreur. Pour renseigner utilement sur la nature du mal, pour serrer la vérité de la maladie, est-ce qu'il ne vaut pas mieux l'exactitude des dosages biologiques et l'objectivité des images plutôt que des paroles imprécises et trompeuses? Écouter trop la plainte détourne souvent du diagnostic, si elle cache l'importance ou des détails montés en épingle. Perte de temps, risque d'erreur. La médecine a construit une part importante de ses progrès en s'efforçant de gommer le particulier au profit des catégories du général, de l'universel. Et en effet, la médecine fondée sur l'épreuve se nourrit de statistiques, laquelle fait compter chaque un, pour un quelconque, et escamote les particularités dans le calcul des probabilités. Le recours à la technique suppose aussi une mise entre parenthèses de l'être humain parlant, qui a suscité pourtant ce recours en sollicitant une attention élective à sa situation propre. Le symptôme décrit par le malade voit son importance minorée au profit du signe, provoqué hier par le stéthoscope, aujourd'hui par l'échographie ou le scanner. La positivité de la maladie pour la science médicale va de pair avec une certaine indifférence pour l'expérience vécue par le malade. La subjectivité que la parole par le langage met au cœur de la scène médicale n'est pas seulement source d'errement, elle est aussi encombrante, que ce soit la subjectivité du malade comme celle du médecin d'ailleurs. Aussi, même si le malade est invité à dire ce qui lui fait problème, les mots ne valent qu'autant qu'ils peuvent désigner les déterminations morbides, comme la fumée signale le feu. Et ces propos s'effacent, in fine, derrière la théorie de la maladie, dont il n'est que le support. Pour le reste, les paroles superflues sont reléguées dans les marges des convenances, la politesse, l'accueil, la courtoisie. Et quand par malheur les paroles envahissent le cadre et annoncent du désordre, on en délègue la gestion de plus en plus à des auxiliaires, infirmières de la consultation d'annonces en cancérologie, psychologues en service de soins somatiques, bénévoles d'accompagnement pour les mourants, aux médecins la dextérité technique et l'expertise savante, aux auxiliaires la parlotte ou le bénévolat relationnel. Médecine statistique et biomédecine technique ont disqualifié la place, l'importance et la portée de la parole pour le cœur de métier, la précision du diagnostic et l'efficacité de la thérapeutique. Faut-il alors des interprètes pour les étrangers? Ce serait une marque de fair-play, une question de droit, mais pas une question de technique médicale. Un supplément, ce serait un supplément gratuit de bienveillance, un label de qualité, et à tous ces souhaits s'opposerait alors la paresse, l'inertie, les difficultés d'organisation, les contraintes budgétaires, car l'étranger est fondamentalement un malade qui fait gaspiller plus que la moyenne. Parce que précisément s'ajoute à la technoscience et à la statistique le tournant managérial, considère le soin comme une activité tarifée, privilégiant là encore la technique à la durée d'une consultation. Le temps passé auprès du malade doit être le temps actif du geste et non le temps passif de l'écoute. Derrière l'insistance sur le rendement, il y a un sourd dénigrement de l'importance de la parole. Le pilotage par la T2A des activités ignore aussi le prendre soin qui ne laisse pas de traces évaluables et donc qui compte pour rien. Tous ces motifs s'additionnent pour faire de la parole une sorte de cerise sur le gâteau qui peut être sacrifiée sans trop de dommages. Et puisque l'activité médicale qui compte vraiment peut se déployer en silence, l'interprète est importun ou inutile. En tout cas, tout se passe comme si. Essayons toutefois d'être plus précis que l'indignation face à une médecine qui se déshumaniserait. La situation clinique avec un étranger linguistique fait apparaître en pleine lumière un dérangement, un embarras qui naît quand la familiarité de la consultation est rompue parce que rien ne peut s'y dérouler comme d'habitude. Ne pas pouvoir lui parler ni l'entendre éveille la sensation pénible que se trouve réalisée une forme d'exclusion et même de négation. Quand j'accepte cette dissonance dans le familier de ma pratique, à quel acquiescement secret je m'adonne? Quelle violence symbolique peut se déployer à l'abri de ma mauvaise conscience? J'avais affaire à un étranger, il n'y avait pas d'interprète, je ne pouvais pas faire autrement. Alors avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord examiner comment on peut mieux soigner avec que sans la parole. La nécessité d'un consentement éclairé par une information de qualité a été inscrite dans la loi. On devrait logiquement déduire qu'il est interdit de soigner sans parole et qu'il est obligatoire, au contraire, de soigner avec la parole. Donc un interprète est requis sitôt que le malade ne pratique pas suffisamment la langue française pour pouvoir comprendre la situation qui est la sienne et dans laquelle il est invité à exprimer ses choix. Comme vous le savez, cette exigence légale est encore loin d'être devenue le standard des pratiques. Mais je préfère m'attarder sur la technique qui prétend se passer de la parole en tant qu'elle manifesterait une subjectivité de mauvais aloi pour ce qui est le propre de la pratique médicale. J'aimerais souligner que c'est pour la médecine une impasse pratique et pas seulement un manquement déontologique. La médecine fait en effet partie de ces savoirs techniques qui construisent des hypothèses à partir du recueil et de l'interprétation de multiples signes, indices et traces. Comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, comme le critique d'art qui distingue la production du maître et celle de l'atelier, ou l'original de la copie, comme le détective sur une scène de crime, le médecin est attentif aux traces parfois ténues d'un passage. Et comme le devin, le médecin doit aussi déchiffrer des signes qui annoncent l'avenir. Un premier argument est donc qu'il n'y a pas de bon diagnostic sans une bonne anamnèse, laquelle suppose une narration détaillée. Le malade est d'ailleurs le premier interprète du bruit que provoque la maladie en lui et qu'il transpose dans un code langagier pour en faire part. Car c'est le propre du langage que de procurer un substitut de l'expérience, apte à être transmis dans le temps et dans l'espace. Certes, les signes fournis de la bouche du malade, lui-même, peuvent égarer, mais comme peuvent égarer aussi ceux qui sont objectivés à même le corps. L'étape de l'anamnèse n'est pas réduite à néant par l'usage des biotechnologies. Voyez ce que le succès du Dr House doit à l'anamnèse quand son équipe gaspille les examens complémentaires. Car comment choisir la bonne technique diagnostique si ce n'est en construisant une bonne hypothèse? L'usage de la parole ne peut donc être relégué à des obligations de courtoisie ou des contraintes légales d'information. Il est fondamental à la pratique même de la clinique et pas seulement pour le psychiatre. Le savoir utile est une construction commune. Le malade apporte un savoir encore informe, son vécu est irremplaçable, mais il ne peut sélectionner seul les éléments significatifs. Le médecin apporte la technique d'organisation, la forme vide de la théorie qui en forme, qui donne forme au savoir du malade. Quand les deux interlocuteurs ne parlent pas la même langue, cette co-construction, ce modèle remonte à Hippocrate, mais il n'a pas changé ce modèle. Cette co-construction n'est guère possible. L'interprète de ces paroles doit être un traducteur fidèle. Il rend alors la différence linguistique presque indifférente. En tout cas, elle cesse d'être un obstacle. Donc à cet argument fondé sur la pure technique sémiologique, médical, s'en ajoute un autre, plus fondamental encore. Certainement, nous travaillons en médecine par une mise à l'écart temporaire du sujet, traduisant en vocabulaire médical les propos qu'il nous tient. Nous manipulons ensuite ces énoncés savants pour construire des diagnostics, proposer des traitements, transmettre des informations à des collègues, etc. Nous avons parlé à l'instant du savoir technoscientifique comme ce qui est capable de surmonter les différences individuelles. Reste à voir quand cette posture devient fautive. Si la subjectivité a été provisoirement mise entre parenthèses dans une étape du raisonnement médical, ce qui a mobilisé ce raisonnement et lui fournit donc son seul mobile pratique comme son fondement moral, c'est l'appel de quelqu'un qui souffre, qui se sent malade. Une médecine qui oublierait ce que Lacan a désigné comme le caractère sacré de l'action médicale, à savoir le respect de la souffrance de l'homme, une médecine qui oublierait ça, cette médecine-là ne connaît aucune limite à l'horreur, l'histoire nous l'a rappelé. Canguilhem aussi a évoqué la nécessité pour la médecine de changer de registre de rationalité quand il s'agit de faire retour par l'assistance de la thérapeutique, faire retour à cet individu qui avait donc mobilisé le détour par la rationalité scientifique. Donc, au début et à la fin, ce qui initie et à la finalité de l'action médicale, on a un retour vers une pratique individuée. Et comme le disait déjà Aristote dans la métaphysique, ce n'est pas l'homme que guérit le médecin, sinon par accident, mais c'est Callias ou Socrate, ou quelque autre individu qui se trouve être en même temps un homme. D'Aristote à Canguilhem, c'est le même constat. Une pratique authentiquement médicale ne peut être qu'individuée, ce qui passe nécessairement par le minimum syndical que fournit la parole, à savoir un médium de communication. Être médecin avec la parole, C'est donc être meilleur médecin du point de vue de l'excellence de la pratique, et c'est tout simplement rester médecin et pas mécanicien de la chose corporelle du point de vue de l'essence de cette pratique. Il me semble qu'on a suffisamment légitimé la présence d'un interprète pour un exercice en situation, on peut dire, hétérolinguistique. Mais pour le moment, nous avons principalement évoqué les difficultés causées par l'étranger linguistique en termes de communication, plus ou moins possible, éventuellement à suppléer par un interprète. Or, il faut approfondir notre examen. Sitôt que l'on soigne avec la parole, elle fait feu de tout bois et déborde la fonction de communication. Si on soigne avec la parole, on se trouve exposé à être dans la parole, parce qu'on ne peut pas en user comme d'un outil pour l'émission de messages. Si on réduit la parole à cet office-là, alors on soignera avec la communication verbale sans se situer pleinement dans la parole. C'est mieux que la mécanique des corps, mais c'est à peine mieux qu'une pratique vétérinaire. On peut en effet partager la même langue ou avoir recours à un interprète quand ce n'est pas le cas, laisser le malade parler, lui communiquer toute l'information nécessaire et cependant rater la rencontre, courir le risque de la désinterlocution avec ses effets d'exclusion, de disqualification, d'instrumentalisation de ceux qu'on observe, même si on communique avec eux et parfois plus efficacement parce qu'on a communiqué avec eux. Au profit, en médecine bien sûr, d'une domination justifiée par le savoir, peut toujours passer pour une bonne méthode puisque ce savoir est ordonné à la guérison plus qu'au respect. Qui préférerait être écouté par quelqu'un qui se trompe de diagnostic plutôt que d'être guéri par un malotru ou un butor? Se tenir dans la parole expose à des complications indésirables, toujours possibles quand quelqu'un prend la parole et dont les étrangers nous dispensent quand le moindre dialogue est impossible. Réclamation, protestation, refus de se soumettre, moi pas comprendre. Le médecin se voit soulagé des négociations délicates, des atermoiements. Il peut se protéger plus facilement de la contagion émotionnelle quand la souffrance ou l'angoisse sont au rendez-vous. L'impossibilité du dialogue protège aussi le malade, lui préserve un espace de résistance face à la curiosité inquisitrice du médecin. Pas besoin d'en passer par la parole pour dissimuler sa pensée. Confort de l'absence de langue. Croire que le malade veut toujours se faire comprendre pour être bien soigné est naïf, et c'est là peut-être l'autochtone qui doit servir d'exemple pour examiner la rencontre avec l'étranger. Bref, dès qu'on place pleinement la pratique médicale dans la parole, nous nous exposons aussi à tous ces chausse-trappes. Mais cela ne saurait arrêter que ceux qui tiennent que la parole est une machine à communiquer. D'ailleurs, pour que la communication se réalise de manière optimale, une part importante du langage est superflue et redondante. Et ce qui est redondant pour l'information au sens strict est précisément ce qui fait office de résonance dans la parole. Par quoi on voit que la fonction du langage n'est pas tant d'informer que d'évoquer. Citation de M. Jacques Lacan. Or, c'est bien pour améliorer la communication qu'on a recours à l'interprète. Ceci n'est pas discutable. Et qu'en est-il alors lorsqu'on élargit le regard aux autres fonctions de la parole? Alors, j'aimerais que les quelques remarques qui suivent, non exhaustives sur la place de la parole, soient reçues comme une incitation à poursuivre des recherches communes, médecin-interprète. Partons de ceci que l'ordinaire des interactions langagières est marqué par une fragilité, des dissonances, des anomalies, des flottements de sens. Eh bien, les silences gênés, les malentendus manifestes, les fausses notes dans le dialogue peuvent être perçues sur le champ. Par exemple, quand le médecin annonce une maladie, il se rend compte tout d'un coup que les mots qu'il emploie résonnent tout à fait autrement pour le malade. Alors, comment ces ambiguïtés peuvent-elles être restituées en situation hétérolinguistique? Mais d'une certaine manière, on peut considérer que l'autre parle toujours une autre langue que la mienne, même quand il s'exprime en français. Le malentendu n'est pas encore l'exception, mais la règle. C'est ce que soutient Pierre Bayard, par exemple. Dès lors, parce qu'il s'agit de comprendre un minimum, parce que nous nous situons toujours dans une situation de soin, et pas dans une situation théorique, il y a des choses qui ne sont peut-être pas immédiatement à comprendre, trop vite, trop bien, mais d'abord à entendre. La langue, pour l'écoute, est toujours singulière. La parole ne sert pas seulement à communiquer un message qui doit être traduit, mais le sujet se sert aussi de la parole pour se représenter lui-même et se représenter d'une manière telle qu'il appelle l'autre à le constater. La parole véhicule des informations utiles et du sens, mais elle est aussi un moyen d'expression de soi. Par exemple, je tire cet exemple d'un article de Madame Casper, dire « Le fils de mon frère a été tué dans un accident de voiture » n'est pas la même chose que de dire « Mon neveu est mort dans un accident de voiture ». Pourtant, le contenu informatif concernant l'état du monde est le même. Mais la vérité subjective qui naît par la parole et dans la parole n'est pas qu'une réalité événementielle. Elle implique le locuteur, en l'occurrence en lien avec le frère et la responsabilité supposée dans l'accident. Elle implique donc la manière dont le réel de l'événement, peut-être la maladie par exemple, est tricoté à l'imaginaire pour être signifié à l'autre dans la parole. Toute formulation suppose donc un choix, on a choisi tel mot plutôt que tel autre. Et si ce n'est pas tout à fait la même chose, alors on voit que l'exercice de l'interprétariat est particulièrement délicat et qu'il trouve peut-être ici une de ses limites. Le processus d'interprétation effectue une dissociation entre le mot et le sens au profit du sens. C'est en général l'idée qui est traduite. Alors, en faisant cela, en véhiculant l'idée plutôt que le mot, on lève des obstacles de la communication, mais est-ce qu'on permet l'écoute qui cherche des points d'ancrage ailleurs que dans le seul transport de sens? En français, on peut éventuellement se garder de comprendre trop vite pour entendre quelque chose. Alors j'essaye d'imaginer comment ça pourrait être réalisé dans la situation avec un tiers, et probablement que l'expérience des psychiatres nous serait utile pour voir comment ils font, parce que cette dissociation relative du mot et de la chose, en fait, elle est monnaie courante. J'ai parlé de la psychiatrie, mais dans la médecine somatique, on a aussi besoin de cette assèse de l'oreille médicale. C'est pas un luxe. Dès lors qu'il s'agit d'une relation suivie sur le long terme, de l'annonce d'une maladie grave, de la prise en charge d'une pathologie chronique, c'est très important, là, les représentations que le sujet se fait de son existence malade. Alors, si le sens des énoncés est instable, une partie du travail qui se déroule implicitement dans les cerveaux respectifs du médecin et du malade, quand ils échangent, est assumée par l'interprète. Il n'y a certainement pas le temps dont dispose le traducteur d'un texte écrit pour choisir la bonne formule de traduction. Alors peut-être c'est trop demandé de ne pas faire prévaloir un sens unique, je ne sais pas. Pensons à comment on traduirait une blague dont l'effet comique repose sur une spécificité de la langue. Mais en fait, c'est déjà chacun pour lui-même qui s'éprouve, s'il y prend garde, à la fois enchaîné à la parole, et cependant sans pouvoir y trouver la possibilité de restituer pleinement, dans des mots, l'intégralité de son expérience et de l'expérience qu'il fait avec son corps en particulier. Si le vivant est un être pris dans la parole, il ne peut jamais tout entier y advenir. Si son désir est originairement tourné vers le langage, s'il veut être dit, s'il est en puissance de parole, il est à la fois ce qui peine à être dit, voire ce qui est non dit. Autrement dit, sa propre parole est pour soi un interprète inadéquat. Ce hiatus est rendu plus visible par l'étranger quand il faut passer par le truchement d'un intermédiaire supplémentaire qui va peut-être redoubler la difficulté ou l'impasse. Le médecin interprète ce qu'il entend de l'interprète et en dessous ce qu'il croit comprendre du patient et de ses symptômes. Le risque ici est que la parole, alternativement celle du médecin et celle du malade, soit confondue avec la parole de l'interprète. Parfois d'ailleurs, médecin et malade s'adressent l'un et l'autre à l'interprète et le regardent tous deux au lieu de dialoguer en vis-à-vis. S'il ne faut pas minimiser cette difficulté, elle nous met cependant sur une autre piste. En effet, s'il y a pour chacun à la fois une aliénation à la parole et une coupure d'avec la parole, alors aucune vérité subjective ne pourra être énoncée sans perte, même quand je suis seul à parler. Et ce n'est donc pas l'interprète qui est responsable. Elle pourra, cette vérité, que passer, se faufiler dans une infinité d'équivoques. La vérité ne peut être que mi-dite, dite à moitié, comme Lacan l'a souvent énoncé. On peut alors retourner cette situation mal vécue parfois de l'interprète vers qui convergent les prises de parole du médecin et du malade pour suggérer qu'il est peut-être le seul à écouter, c'est-à-dire à laisser à la voix et à la parole de qui est là toute la place. Définition d'écoute de Maurice Bellet. Et ceci nous amène à rappeler que la parole porte le désir d'être reconnue, d'être écoutée. Parce que ce désir est ce par quoi advient l'homme, et que l'écrasement de ce désir est un malheur sans fond. Sans langage, pas de société, pas d'humanité. Parce que la vocation originelle du langage, dit Benveniste, c'est de servir à vivre avant de servir à communiquer. Nous avions situé auparavant l'impératif déontologique et légal au niveau de la communication. Du point de vue de l'éthique, l'enjeu est sur un autre plan, qui touche la parole dans sa dimension d'appel, sa dimension vocative. Ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre. Ce qui me constitue comme sujet, c'est ma question. Lacan. Le malade s'adresse à quelqu'un. Le médecin aussi, hein, tout cela est complètement réversible. La parole signifie une interpellation et une demande, en deçà de l'objet demandé. L'adresse met en acte une parole vivante, une vibration sonore. Répondre à un appel, c'est pas encore faire des soins, mais se disposer à accueillir cette parole, à écouter l'expérience. L'interprète ici signifie, par sa seule présence, avant même tout échange de paroles, avant toute traduction réussie ou non, le désir de se faire entendre et l'accueil qui va au-devant de la parole et l'invite à son déploiement. L'absence de l'interprète vaut alors comme indice d'un désintérêt. Pire encore, car la fonction décisive de ma propre réponse n'est pas seulement approbation ou rejet du discours de l'autre, mais vraiment de le reconnaître ou de l'abolir comme sujet. Irréductible appel, selon Lévinas. Ici, l'étranger sert de paradigme de l'altérité, faisant son entrée sans avoir ses entrées. L'étranger, par son apparoir, engage ma responsabilité à son égard, que l'interprète soit là ou non. Est-ce à dire alors qu'il est inutile, l'interprète ? Ben non. Dès lors que l'on quitte cette radicalité métaphysique pour s'inscrire dans le champ pratique, soigner avec la parole, c'est se situer dans le régime des questions-réponses, réponse-answer en anglais. L'interprète sert à mieux communiquer, c'est bien, c'est très bien. Soigner dans la parole, ce n'est pas seulement en assumer toutes les dimensions, c'est aussi répondre à un appel. L'invoquer n'est pas ce que je comprends, il est celui à qui je parle. Et l'interprète ici signifie que c'est à l'étranger que je m'adresse vraiment. Il concrétise cette figure sociale de l'écoute qu'est l'hospitalité. Certes, on peut, même avec l'interprète, rester à l'abri de l'exigence de l'appel de la parole, en demeurant à part soi, dans le flux de sa propre pensée. Et c'est aussi par un autre qui me parle, au besoin avec un interprète, que je peux être réduit au silence. Mais ne soyons pas trop sceptiques ici, même s'il ne faut pas s'imaginer dans le monde des bisounours. On peut, en quelques mots de conclusion, ajouter une dernière perspective. Excusez-moi. plutôt que d'insister sur la différence entre deux individus, deux cultures, deux langues, le philosophe et sinologue François Julien propose de considérer l'écart plutôt que la différence. L'écart ne se laisse réduire par aucun genre commun, alors que les différences peuvent toujours être résorbées en se plaçant à un niveau supérieur. Par exemple, les droits de l'homme. Hein. Si je transpose les élaborations qu'il propose à la situation médicale, je dirais alors que l'espace ouvert dans le dialogue entre malades et médecins n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Ils s'entretiennent. Ils se tiennent dans l'antre. ENTR. Pensez à une articulation qui permet le mouvement parce qu'il y a un écart entre les pièces osseuses. L'articulation est l'écart qui maintient à la fois la distance et le lien et qui augmente la puissance du commun. Le commun que forment les deux pièces osseuses en l'occurrence. Il faut laisser l'écart s'engendrer dans l'entretien pour que l'autre, le malade ou le médecin, selon la place qu'on occupe, puisse s'établir en vis-à-vis et non comme un différent dont les différences vont être réduites. Le plus souvent d'ailleurs au profit du médecin, de l'occidental blanc démocrate masculin qui imposera son standard ou du savant par rapport au profane. Eh bien, l'interprète, n'est-ce pas celui qui peut contribuer à faire consister cet écart, qui va produire de l'antre entre les langues de départ et d'arrivée. Il ne reste pas plus dans une langue que dans l'autre. Il se maintient sur la brèche de l'entre-langue et dans cet antre, il fait passer alternativement l'un et l'autre. Soigner dans la parole, c'est alors aussi faire usage de la parole pour se tenir entre, pour s'entretenir. La consultation avec l'étranger est là encore exemplaire, car l'antre y trouve à s'incarner dans le corps et la bouche de l'interprète, dans sa voix. L'interprète permet alors l'accroissement du commun en étendue comme en intensité. Cela vaut la peine, même si pour cela, il faut risquer la blessure inguérissable de n'être pas seul à parler.
Je remercie beaucoup le professeur Jean-Christophe Weber pour cette analyse présentée de la relation patient-médecin. Je dois dire que pour ma part, j'aime beaucoup cette définition de l'interprète comme celui qui permet à cet écart d'exister. Cet écart est précisément probablement celui de l'altérité. Et sans cet écart-là, elle est niée. Mais je vais laisser la place à la parole et aux questions qui pourraient venir de la salle. Et je voudrais remettre les micros qu'il faut allumer en bas.
Ça marche ?
C'est bon ? Monsieur Krigel.
Après avoir écouté avec beaucoup d'attention le cheminement que vous nous avez proposé, je me pose concrètement la question, dans un accueil d'urgence dont on connaît un peu le côté tonitruant, comment trouver cette place, cette faille, pour permettre ce cheminement du sans-parole jusque dans la parole ? Première question. Et deuxième question. Est-il possible d'évaluer hors ou au-delà des impératifs économiques l'efficacité ou l'intérêt ou la perspective que peut donner ce soin dans la parole par rapport à ceux qui promeuvent justement la technicité, la rapidité et l'efficacité telle qu'on la propose, notamment dans d'autres domaines aussi. Merci.
Les derniers mots, la blessure inguérissable, d'être pas seul à parler, sont un emprunt à Jean-Claude Milner. Je les ai sortis du contexte parce que j'ai pas cité, mais c'est dans deux petits bouquins. Le premier s'intitule La politique des choses et l'autre Pour une politique des êtres parlants. Alors on aime ou on n'aime pas Jean-Claude Milner, mais il me semble qu'il souligne assez bien dans ces deux petits travaux ce qui est en train de se passer. Et c'est que la politique des choses, c'est la politique qui s'adresse à des quelconques. C'est-à-dire que, qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. Quelqu'un qui ne manque jamais à sa place. Eh bien, plutôt que de dire « oui, mais comment cela va-t-il être possible dans telle ou telle circonstance ?» ou « est-ce que la question qui prime est celle de l'efficacité ?» à mon avis, c'est prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, je dirais, à ne pas prendre garde aux questions fondamentales de qu'est-ce qui mobilise, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait une médecine et comment travaille-t-elle. Eh bien, il faut accorder ensuite la gestion, l'organisation à cela et pas laisser les impératifs budgétaires infléchir l'habitus puis les dispositions jusqu'à finalement se rendre compte que la politique des choses, tout le monde s'en accommode fort bien. Pourquoi on s'en accommode si facilement? Eh bien parce que justement, la parole, on aimerait bien peut-être pouvoir s'en défaire. Et donc, moi je prendrais, pour répondre à vos questions, je prendrais exactement l'inverse. Je veux dire, si nous voulons pratiquer la médecine, quelle médecine nous voulons pratiquer et comment nous allons mettre en œuvre ceci dans tel ou tel secteur. Les urgences, c'est peut-être pas au niveau d'organisation le plus simple. Mais aux urgences, moi ce qui me frappe, c'est comment des malades français peuvent ensuite protester contre le sort qui a été le leur. Je trouve ça absolument scandaleux. Et cacher ça sous une idée que c'est juste une question pratique et organisationnelle et qu'on n'a pas pu faire autrement, c'est se résigner à traiter les gens comme des choses. Quant à l'efficacité, moi j'en suis convaincu pour ma part, mais pour le moment ça repose sur des anecdotes. Mais il me semble que c'est suffisamment... Je n'aimerais pas qu'on en arrive à devoir démontrer par une étude les uns soignés dans la parole et les autres sans parole que c'est plus efficace en termes de résultats, de mortalité, de morbidité. À la limite, le résultat importe peu. Parce que si on se situe dans la parole, alors on peut aussi arriver à se dire que ce qui compte, c'est peut-être pas la durée de vie, ni même sa qualité. Mais que pour rien au monde, on ne veut quitter la parole. Et que ça vaut tout le reste. Bon, j'ai bien esquivé vos questions, ça va?
Monsieur Fett.
Juste, alors c'est toujours dur de passer après Jean-Christophe. Moi, je vais plus être sur un côté politique et syndical pour essayer d'illustrer cette question. Aujourd'hui, le choix sociétal, il est fait. Il est fait. C'est-à-dire que quand on voit les moyens financiers qui sont mis pour la technique, quand on voit les moyens financiers qui sont mis notamment pour les thérapeutes qui sont dans la relation de la parole, ça veut dire les médecins généralistes, les psychiatres, les médecins internistes, ben, aujourd'hui, la société, elle a fait le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle valorise tout ce qui est de l'ordre de l'imagerie, de la technique. Quand vous voyez même les revenus des professionnels, en tout cas là, je parle en termes de libéraux, on voit bien que le choix a déjà été fait. Et donc aujourd'hui, la résistance, il faut la mettre en œuvre maintenant. Et politiquement, il faut savoir où on veut mettre les moyens pour retrouver ce travail que nous on fait en tant que médecin généraliste, en tant que médecin interniste, en tant que psychiatre, autour de la question de la parole et des outils qui sont mis dans nos travaux. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, je suis aussi vice-président du conseil de surveillance des hôpitaux. On voit bien aujourd'hui que même si à Strasbourg on a un directeur qui est d'une efficacité tout à fait importante et qui a un travail aussi qui est quand même respectueux des choses, on voit bien que les logiques avec la T2A, les logiques, elles sont purement dans l'efficacité. Et donc, tout ce qui est autour de la parole, on voit bien que ça va rallonger sans doute les temps de séjour, ça va sans doute rallonger ces prises en charge. Donc c'est vrai que cette question-là de l'interprétariat, il est dans cette interface aussi hein, des moyens et des choix qu'une société fait autour des professionnels qui s'engagent autour de ces questions. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi je le dis un peu différemment hein, parce que j'ai d'autres références que toi, mais je trouve que c'est quelque chose aujourd'hui où il faut vraiment qu'on résiste, hein, c'est-à-dire qu'on résiste tous ensemble, que ça soit les gens de l'hôpital, les gens des libéraux, les médico-sociaux, il faut qu'on résiste à ça, et c'est un temps, le temps politique il est aujourd'hui, maintenant.
Voilà. Oui, mais moi non parce que moi, j'adore les biotechnologies. Non, mais j'adore ça. Je trouve que c'est génial. Et donc, il faut faire attention que la résistance, si résistance il doit effectivement y avoir, ce ne soit pas la parole contre la technique. Là, on est perdant. Et puis, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Moi, je ne veux pas revenir à une médecine à la Hippocrate où il parlait, mais il faisait que ça, quoi. Hein. Non. Mais l'utilisation la meilleure, la plus fine, la plus efficace de la technique, c'est de choisir le bon examen. C'est en cela que la médecine est la plus scientifique, c'est-à-dire parce qu'elle fabrique son hypothèse, qu'elle émet à l'épreuve grâce à la technique. C'est là que la médecine sera la plus sobre de moyens, hein, parce que faire des examens et réfléchir après, c'est là qu'on dépense. Et donc, une utilisation rationnelle des moyens, c'est aussi mettre la parole à profit. Et au profit des économies. Alors, moi, je pense que l'interprète, c'est... Il ne faut pas dire l'interprète parce que la parole c'est important et bien sûr ça va coûter plus cher. Non, il faut dire l'interprète, enfin aux gens qui décident en matière de sous, il faut dire l'interprète parce que c'est moins cher, parce que c'est plus efficace, parce que c'est une médecine plus sobre, c'est une médecine qui va dépenser moins. Et donc je crois que là c'est un peu... Il faut arriver à... C'est aussi une médecine plus belle, plus du point de vue esthétique. Hein, une médecine sobre qui arrive, qui choisit parce qu'elle a pu parler avec le malade le bon examen. Eh bien, à mon avis, c'est aussi... c'est comme ça qu'on va argumenter pour l'amour du métier. Parce que ben, les médecins, ils aiment... C'est mieux de bien travailler. Parce que... Voilà.
Donc je donne la parole à Claire Mestre, Claire Donovan, Pierre Trilisky. Ah, c'est bon ? Bon, d'accord. Claire Mestre.
Oui. Moi, je suis psychiatre, ancienne interniste et anthropologue. Voilà. Et je voudrais souligner que c'est important que quelqu'un comme vous défendre quelque chose de l'ordre de la médecine. Car en effet, quand on suit votre cheminement, on entend bien les résonances, en effet, philosophiques. Enfin, moi, j'ai pensé aussi à Foucault, à Illich. Et je pense qu'il y a une interrogation que l'étranger nous renvoie sur la pratique médicale. Vous avez parlé de plaisir. Enfin, c'est moi qui parle de plaisir parce que je crois qu'il y a des enjeux qui ne sont pas seulement un contexte français, enfin, qui doit se trouver en Europe et partout dans le monde occidental. Il y a un enjeu au sein de la médecine qui en effet remonte à très loin, mais qui est aussi l'enjeu de ce qui se passe par exemple en Afrique ou à Madagascar, parce que je connais, j'ai beaucoup travaillé sur l'institution à Madagascar, justement l'institution hospitalière. Et la question de l'acte vétérinaire ou l'acte, comme vous le proposez, c'est-à-dire soigner dans la parole, est propre, je pense, à notre médecine occidentale. Parce que tout ce que vous venez de dire, on aurait pu le dire ailleurs, dans d'autres services, où effectivement, on a exporté une médecine qui, en s'exportant, a oublié d'exporter d'autres choses que, malheureusement, dans des contextes plus difficiles, on a la difficulté à se réapproprier de la question, justement, de la parole, du bon examen avec la bonne parole. Enfin, c'est exactement les mêmes enjeux. Donc, c'est intéressant, finalement, que l'étranger et les interprètes nous contraignent à réexplorer ce qui est fondamental dans la médecine, qu'elle soit technique, qu'elle soit, comme moi je la pratique, une médecine de la parole. C'est absolument fondamental. Et c'est un enjeu, encore une fois, qui n'est pas seulement propre à nous, quoi.
Pierre Trilisky.
Bonjour, donc Pierre Trileski, je suis médecin généraliste et je suis aussi membre élu à l'Union régionale des médecins, et dans ce sens-là, j'organise ce dispositif d'interprétariat. Donc je voudrais d'abord remercier Jean-Christophe de la position de ce qu'il m'a apporté pendant que j'entendais ça en tant que médecin généraliste. Tu m'as fait énormément de bien. Médecin généraliste, parfois on se sent complètement apeuré de se retrouver un de ces monstres froids et sans parole qui serait celui qui accomplit, qui agit le soin quoi qu'il en coûte pour son patient, pourvu qu'il vive longtemps et qu'il vive sans handicap. C'est une position tout à fait effrayante, une position de solitude difficile. Moi je n'ai pas du tout envie de cette position et je ne la trouve pas confortable. Donc tu as souligné que, ben oui, le médecin a droit à la parole. Et d'une certaine manière, tu as souligné le fait qu'on peut être médecin. C'est ce que j'éprouve dans ma pratique quotidienne. On peut être médecin et parler. L'interprétariat, si personnellement je m'engage sur cette question, et si institutionnellement l'institution m'a suivi, c'est que l'interprétariat porte justement cette dimension de la parole autant pour le patient que pour le médecin. Et il permet, comme tu l'as très bien décrit, d'introduire cet intermédiaire, d'introduire ce risque de ne pas se comprendre, mais en tout cas de ne pas se comprendre avec sincérité et avec humanité. Et je pense qu'on peut être un petit peu plus optimiste que ce que disait Alexandre Fels. On est dans un cadre qui reconnaît, qui porte. Je vois qu'il y a des réels soutiens à ces dispositifs, il y a des réels financements à ces dispositifs qui me laissent espérer qu'on pourra accomplir une médecine efficace. C'est ce que, évidemment, les patients attendent ça de la médecine, mais une médecine qui garde la dimension de son humanité.
Oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est juste que justement, ça a dû être inscrit dans la loi. Et c'est-à-dire que ça apparaisse. Je ne vais pas, devant Liliana Savant, dire l'inscription dans la loi, c'est pas important. Mais elle ne me parlera plus jamais. Mais le risque, c'est alors que du côté professionnel, on subisse ça comme une contrainte. Ah oui, malheureusement, les patients ont des droits, on ne peut pas faire avec eux tout ce qu'on aimerait faire, quoi. Et c'est pour ça que j'ai essayé de revenir, d'insister plus sur vraiment comment se pratique la médecine.
Merci. Question encore, une dernière.
Bonjour, Guillaume Corduan, je suis pédopsychiatre au CHU. Vous évoquiez tout à l'heure un éventuel partenariat interprète-médecin pour une recherche, pour des recherches. De quelles recherches, par exemple ?
Mais il me semble que les difficultés qui sont celles de la parole en général, dans la consultation médicale, on voit que certaines choses, par exemple le choix du mot plutôt que le choix du sens, ça c'est des questions qui interrogent beaucoup. Alors c'est vrai que ça interroge dans la situation, quelle que soit la situation linguistique, mais il me semble que là ce que j'imagine comme type de recherche, c'est une recherche avec où des interprètes et des médecins qui s'intéressent à cette question partagent déjà leurs expériences et voient qu'est-ce qui s'est passé là, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin comment ça passe ou ça passe pas, qu'est-ce qu'il faudrait aussi après en termes de comment se former à ça, au passage de l'équivoque par exemple, mais aussi d'approfondir du côté des interprètes c'est la question de ces représentations. L'autre jour il y avait quelqu'un qui disait oui, bon alors ma maladie est incurable. Et je me suis dit, chic, pour une fois que quelqu'un comprend quand on lui dit qu'il a une maladie, qu'on ne va pas pouvoir soigner, qu'il emploie le mot, on se dit, ben voilà, il est déjà dans l'acceptation, on a déjà fait moitié du chemin. Je me suis dit, c'est peut-être pas ça. Et de fait, ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'entends par incurable. Et donc, là, c'est très délicat. Déjà, quand on comprend la langue, moi, j'aimerais bien savoir comment on peut faire quand on travaille avec un interprète, quand on est médecin, pour se garder de foncer comme ça dans les traductions, et quand on est interprète, de comment être, je sais pas, attentif, restituer ces choses-là. J'avoue là simplement peut-être mon ignorance de tout de la technique, du métier, de la pratique de l'interprète. Voilà. C'est peut-être juste ça, hein. Enfin, j'imagine une recherche dans le sens d'une élaboration commune pour créer des conditions d'une meilleure articulation. Voilà.